Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Métropolez-vous pour le 237e numéro de votre magazine dédié à l'actualité de Toulouse Métropole. Si vous avez écouté l'émission de la semaine dernière, vous vous rappelez sans doute que nous y avions présenté l'infrastructure de connectivité 5G dans la métropole toulousaine. Nous y avions aussi abordé vers la fin le sujet de l'intelligence artificielle et la manière dont les élus et les collectivités étaient impliqués, consultés pour tout ce qui touche aux questions posées par l'irruption de l'IA dans notre société et dans nos vies. Aucun domaine n'échappe à ces interrogations, celles relevant de l'éthique n'étant pas les moindres. Un établissement comme le Quai des Savoirs, le Centre de Culture Scientifique et Technique de Toulouse Métropole, devait forcément s'emparer un jour de ce sujet en constante et rapide évolution. Nul ne s'étonnera donc que sa grande exposition annuelle lui soit consacrée. Elle a pour titre « IA double jeu, jeu JE » et elle est ouverte au public jusqu'au 3 novembre prochain. Pour en savoir plus, je vous invite à écouter très attentivement l'émission qui va suivre. Et pour vous présenter l'exposition IA double jeu, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui Laurent Chicoineau, le directeur du Quai des Savoirs, que je salue et que je remercie d'avoir répondu à mon invitation. Soyez le bienvenu dans nos studios.
Bonjour, merci beaucoup.
Alors si je vous demande une définition d'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous pouvez me répondre ? Est-ce qu'il en existe une, précise et communément admise ?
Alors, première question difficile. L'intelligence artificielle, le terme lui-même remonte aux années 50, à la fin des années 50, et ça a été une proposition, un terme proposé par des scientifiques justement qui travaillaient sur la manière de reproduire les fonctions cognitives humaines par des machines. Donc en fait, la définition de l'intelligence artificielle aujourd'hui, on pourrait dire, c'est comment reproduire les fonctions humaines cognitives, c'est-à-dire l'apprentissage, la perception, le calcul, la décision, comment on peut reproduire ces compétences à travers des machines. Donc l'intelligence artificielle, c'est à la fois un domaine scientifique parce qu'il faut travailler, parce que ça c'est de la recherche en informatique, hein, on va dire en maths et en informatique, et puis c'est aussi une technologie puisque c'est une recherche qui se traduit par des expérimentations, par des dispositifs et par différents types de machines, alors que ce soit des machines virtuelles, hein, donc des algorithmes et des machines physiques, c'est-à-dire des, comme des robots dans lesquels on a de l'informatique et des algorithmes.
S'agissant d'exposition IA double jeu maintenant, est-ce qu'elle a été entièrement conçue par le Quai des Savoirs et avec qui avez-vous travaillé pour la monter ?
Oui, alors c'est une des premières, alors c'est pas la première puisqu'on a déjà conçu des expositions, je pense à Humain Demain il y a quelques années et qui d'ailleurs a un cousinage, on va dire, thématique avec IA double jeu. Mais cette exposition, effectivement, c'est une coproduction déjà avec Universcience, la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Donc c'est une grande exposition qui va d'abord être présentée à Toulouse, puis qui ira en 2025 à Paris, et puis ensuite qui entamera une tournée en France. Donc pour nous ça c'est une grande première, c'est-à-dire que jusqu'ici le Quai des Savoirs n'avait pas produit d'exposition itinérante, comme on dit. Donc ça c'est une première, et puis évidemment pour la travailler, on s'est associé avec un grand nombre de compétences scientifiques, mais aussi j'irais philosophiques et en sciences sociales, pas uniquement à Toulouse, mais aussi bien sûr à Toulouse, puisque si on a des décidé de lancer ce projet, ça fait 3 ans hein, maintenant qu'on travaille dessus, c'est aussi bien sûr parce que Toulouse est une place forte en recherche en intelligence artificielle en France et dans le monde, grâce à ANITI hein, notamment, qui est un institut pour l'intelligence artificielle. Vous savez, en France, il y en a 4 qui ont été créés. Il y en a à Paris, il y en a à Grenoble, à Nice et un à Toulouse. Et donc à Toulouse, il s'appelle ANITI. Il dépend de l'Université fédérale de Toulouse et il regroupe un grand nombre d'organismes de recherche qui sont implantés à Toulouse, tels que le CNRS, hein, pour ne citer que lui, et puis aussi des grands industriels de la place comme Airbus, Continental, Thales, etc. Et donc, on peut dire que ANITI, c'est vraiment notre grand fer de lance ici, toulousain, qui travaille à la fois sur les développements industriels et puis aussi qui a cette spécificité de s'intéresser aux conséquences éthiques et aux conséquences sociales de l'intelligence artificielle. Donc, ça a été un de nos grands partenaires scientifiques. Et puis, comme c'est une exposition nationale, hein, d'envergure nationale, on a aussi recherché et obtenu le soutien du CNRS à l'échelle nationale et de INRIA, qui est un peu moins connu que le CNRS, mais qui est l'Institut National pour la Recherche en Informatique et en Automatique, qui est donc un très grand organisme public français de recherche autour de l'informatique et évidemment de l'intelligence artificielle.
Alors voilà donc pour les principaux partenaires de l'exposition. Je suppose qu'il y a eu aussi constitution d'un comité scientifique.
Absolument.
Par qui est-il composé?
Alors, on a une douzaine, une petite, un peu moins 11 personnalités qui sont dans ce comité scientifique. Ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des personnalités qui sont issues du monde de la recherche en informatique, hein, évidemment, donc du côté de l'intelligence artificielle, mais aussi, et c'est ça l'originalité qu'on essaye de défendre au Calais Savoir, hein, c'est ce regard transversal, interdisciplinaire sur les sujets sciences et société. Et donc, on a aussi mobilisé un philosophe de l'innovation, Thierry Ménis, qui travaille à Grenoble, dans l'équivalent de Aniti, mais à Grenoble et à l'université Grenoble-Alpes. On a aussi mobilisé une juriste qui est actuellement à Ottawa, au Canada, mais qui est toulousaine, enfin qui vient de l'université Toulouse-Capitole, qui est une des grandes spécialistes en fait internationales, hein, autour des enjeux juridiques, enfin du droit, la recherche en droit, parce qu'il faut savoir qu'il y a de la recherche en droit, hein, pas uniquement en physique et en biologie, mais en droit aussi. Et donc c'était assez passionnant de travailler avec elle. On a également mobilisé Ian Ferguson, qui est un sociologue qui travaille beaucoup sur les enjeux de justement du travail et de l'intelligence artificielle, hein, les enjeux du travail et des technologies. Il anime un groupe de réflexion mondiale, hein, à l'échelle mondiale autour de ça. Aujourd'hui, il dirige un grand laboratoire, il est directeur scientifique d'un labo à INRIA sur cette thématique-là. En particulier, hein, sur les enjeux du travail, et on y reviendra sûrement, mais c'est un des sujets assez importants, hein, au cœur des enjeux de l'IA. Également une collègue, Isabelle Astic, du Musée des Arts et Métiers à Paris, avec laquelle on a travaillé notamment sur la partie historique. Donc vous verrez dans l'exposition, il y a une grande fresque historique, parce qu'on voulait aussi expliciter que l'IA, c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau, hein. Je disais tout à l'heure, ça date de la fin des années 50, et puis même avant, enfin, ça se rejoint avec l'histoire de l'informatique. Et puis quand on va parler aussi des dimensions imaginaires et mythologiques, qu'on peut aller même jusqu'à l'Antiquité, puisque ce désir de créer des êtres artificiels, ou en tous les cas de simuler la vie et de simuler la pensée, les mécanismes de la pensée, ce sont des fantasmes, on peut dire, ou des désirs que les humains ont peut-être depuis qu'ils sont humains.
Oui, l'aspect prométhéen, évidemment, voilà. De l'humanité. Eh bien, merci pour toutes ces précisions. Je pense que beaucoup de nos auditeurs en avaient besoin avant qu'on parle du contenu de l'exposition en lui-même. Un mot sur le titre que vous avez donné à cette exposition. Pourquoi il y a double jeu ? Sachant qu'il y a aussi un sous-titre, l'intelligence artificielle et moi, est-ce qu'il faut comprendre que l'intelligence artificielle nous tend un miroir dans lequel nous regarder et qu'en quelque sorte, elle nous interroge sur nous-mêmes et notre rapport à la technique et au progrès?
Vous ne pourriez pas mieux dire, effectivement. On est exactement sur cette ligne et vous le verrez dès l'introduction de l'exposition, puisqu'en rentrant dans la salle d'exposition, vous allez être confronté, je dirais, gentiment à votre propre image à travers des miroirs. Et aussi à travers ces miroirs, vous pourrez revoir, puisque c'est des images qu'on a un petit peu dans notre imaginaire collectif, deux séquences qu'on a voulu mettre en avant en introduction à cette exposition, sur le double jeu, qui est ce jeu de mots, hein, avec à la fois le jeu moi et puis le jeu et le jeu d'échecs et le jeu de go, puisque ça fait partie des sujets qui ont défrayé la chronique, hein, et qui permettent, alors c'est assez, je dirais, fallacieux, mais l'idée de mesurer la compétence d'une machine à travers un jeu d'échecs et la concurrence avec l'humain, et donc on met en scène le moment où Kasparov perd contre
la machine
voilà, aux échecs, et où il se prend la tête, hein, au sens propre même, et on voit cette séquence que Lina nous a retrouvée. Et puis on a aussi Lee Sedol, qui est ce champion mondial de Go, de jeu de Go, qui perd aussi 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard face à AlphaGo, donc un autre logiciel, cette fois-ci développé par Google, le premier c'était IBM, et donc qui perd et qui aussi ne comprend pas comment il a perdu.
Au-delà des aspects scientifiques et techniques évidents, hein, de cette exposition, l'irruption de l'intelligence artificielle dans nos vies, est-ce qu'elle ne pose pas d'abord des questions philosophiques, sociologiques et éthiques ?
Oui, complètement. C'est vrai que ce qu'on a constaté en travaillant sur ce sujet, parce qu'on développe beaucoup ce qu'on appelle la conception par l'usage, c'est-à-dire qu'on discute beaucoup avec nos publics avant de faire une exposition, des prochains sujets, on a même des protocoles, hein, en interne qu'on développe autour de ça. On le fait avec des enseignants, on le fait avec des scolaires, on le fait avec du grand public, hein, donc les gens qui viennent nous rendre visite régulièrement, et de plus en plus. Et donc, ce sujet, en fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'il suscitait pas mal de craintes aussi. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, on peut dire, d'une certaine manière, ça fait peur aux gens sur certains aspects. Donc effectivement, derrière les réponses, on va les trouver dans le domaine de la réflexion philosophique, la réflexion éthique, mais aussi on va le trouver du côté du droit, hein, de manière très concrète. dans nos vies quotidiennes, il y a des enjeux hein, au quotidien qui sont, à nouveau, je le répète, portés beaucoup par la dimension juridique. Donc il y a des éléments importants dans l'exposition là-dessus. Récemment, la Commission européenne a voté le IA Act, comme on dit, hein, l'acte, donc c'est un acte juridique autour de l'intelligence artificielle, pour obliger les industriels à, par exemple, dire si leurs produits, c'est-à-dire les algorithmes qu'ils proposent, sont dangereux. Donc avec une sorte d'échelle de cotation, comme on a eu dans le domaine de l'industrie agrochimique, par exemple, ou chimique de manière générale, le règlement REACH qui obligeait les industriels à noter leurs produits et à annoncer aux consommateurs finalement la dangerosité de ces produits. Et du coup, du côté des algorithmes, l'Europe est la seule région au monde hein, à proposer et à imposer aux industriels. Alors les industriels, c'est Google, c'est Facebook, c'est Meta, hein, c'est Amazon, etc., d'évaluer eux-mêmes leurs algorithmes en termes de dangerosité pour les citoyens, pour le... Bon, alors maintenant, il va falloir voir comment tout ça, ça va se mettre en pratique, hein, bien évidemment. Mais ça montre là quand même la volonté, la prise de conscience, réellement, à l'échelle européenne et à l'échelle des États-nations, bien sûr, de prendre en charge, prendre en compte ces enjeux. Et donc, on a voulu les aborder, évidemment, dans l'exposition, à travers, en fait, les applications. Et donc, ce que vous allez découvrir dans cette expo, c'est, bien sûr, de la science, mais je dirais peut-être d'abord des applications. Et un des éléments très importants en termes aussi scénographiques, en termes d'ambiance dans laquelle on va vous plonger, c'est que, en fait, vous allez voir, ça discute beaucoup dans l'expo. Il y a beaucoup de voix, on vous parle beaucoup. On a eu la chance de travailler avec beaucoup de comédiens différents qui racontent des histoires, qui disent l'IA. Et ça nous a paru vraiment important de mettre en récit aussi cette technologie, cette science, de la montrer sous un angle vraiment très humain avec les applications. Donc, c'est dans notre vie à nous, qu'est-ce que ça change ? Comment on s'en empare, comment on se raconte des histoires avec ça, et c'est ça qu'on a réellement voulu mettre en scène.
Alors après ce tour d'horizon général et aussi cette présentation de la ligne directrice qui a été la vôtre, des principes sur lesquels vous vous êtes appuyé pour construire cette exposition, quel parcours vous proposez aux visiteurs pour illustrer toutes les questions que pose l'intelligence artificielle, que vous venez d'ailleurs d'énumérer à peu près exhaustivement? Il y a plusieurs modules en fait.
Oui, c'est ça. C'est un peu le principe de nos expositions, hein. C'est-à-dire qu'on a une exposition modulaire. Là, on a un parcours en 5 grands modules. Après l'introduction, donc, on a ces clins d'œil Kasparov, Seidel. On a aussi toute la frise historique que j'évoquais pour recontextualiser hein, l'intelligence artificielle. Et puis, on a laissé les dernières cases, puisque vous verrez, c'est une sorte de grand damier. Et en fait, la figure du damier est la clé graphique et scénographique de l'exposition, hein, le noir-blanc, puisqu'on a voulu jouer aussi sur la dualité et le parcours, c'est-à-dire la dualité entre l'homme et la machine, la dualité entre le 0 et le 1, toutes les dualités qu'on peut trouver, qu'on pense complètement génératrices, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe qu'une dualité, et c'est ça le parcours de l'exposition. C'est-à-dire au début, vous démarrez à partir d'un échiquier, hein, d'échecs, tout simplement, et puis vous arrivez dans des formes qui sont organiques à la fin, puisqu'en fait, tous les enjeux entre l'homme et la technologie, ou la société et la technologie, c'est beaucoup plus une interaction et en niveau de gris, comme on dit, que du noir ou du blanc. Donc ça, c'est le message principal. Et dans cette chronologie au début, vous avez des cases vides, puisque bien sûr, l'histoire va se continuer. Et comme l'exposition va durer un certain nombre d'années, on va continuer à mettre à jour.
Et oui, parce que c'est sans cesse en évolution, voilà. Et ça va très très vite.
Exactement, ça va très vite. Alors, en même temps, il y a des choses qui sont très lentes. Et donc c'est ça qui est difficile à percevoir aussi quand on s'intéresse à l'histoire des technologies, l'histoire des sciences et surtout l'histoire des technologies. C'est qu'il y a des choses qui sont très lentes, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tout le monde parle de ChatGPT, mais ça fait plusieurs années, voire dizaines d'années que les chercheurs travaillent dessus, oui. Connaissent les large language models, c'est-à-dire les grands modèles de langage qui s'appuient sur des très grandes bases de données pour justement réussir à communiquer avec nous. La grande différence aujourd'hui, enfin la grande nouveauté si on peut dire, c'est que ChatGPT est dans le grand public et n'importe qui peut s'adresser à ce logiciel. Et c'est ça qui est complètement différent. Donc c'est vraiment, vous voyez, en termes d'usage plus qu'en termes de recherche fondamentale. C'est ça qu'on a voulu montrer. Il y a un temps long de la recherche, alors c'est compliqué de le voir, et il y a un temps beaucoup plus, on va dire, non pas superficiel, mais un temps des usages, un temps des applications qui lui-même est rythmé aussi beaucoup par les industriels de la technologie, puisqu'ils font du marketing pour vendre, en fait, hein, tous ces produits. Et donc, j'utilise ces mots à dessein parce que derrière, un de nos grands enjeux, c'est justement de réveiller, en tous les cas, de stimuler notre esprit critique vis-à-vis de ces technologies.
Vos modules, hein, moi, y en a 5 là, oui. Qui reposent vraiment sur des antagonismes, en fait. Hein. Il y en a un, c'est Start, stop. ça pourrait être stop ou encore, mais
voilà, c'est ça.
C'est un peu ça. Où en est-on? Jusqu'où va-t-on aller? Est-ce qu'il faut s'arrêter le stop? Je suppose que c'est ça.
Voilà.
Est-ce qu'il y a des pistes qu'il vaut mieux ne pas explorer?
Alors,
tout en sachant que souvent, c'est compliqué hein, de freiner le progrès, même si on a le sentiment qu'il ne va pas dans la bonne direction.
Alors, ce start-stop, il est aussi au premier degré, puisque c'est le module qui parle du véhicule autonome. Donc, on a voulu utiliser le véhicule autonome comme un démonstrateur en fait, des technologies d'intelligence artificielle, puisque en fait, c'est le cas. C'est-à-dire que dans un véhicule autonome, on a toutes les fonctionnalités qui sont remplies par l'intelligence artificielle. Il y a des capteurs, il y a des actuateurs, c'est-à-dire que le véhicule, il agit de lui-même, il prend des décisions, il calcule, il fait des prévisions, il apprend évidemment, non pas de ses erreurs, faut espérer, mais il apprend aussi de son environnement, il apprend du comportement aussi, des différents acteurs, je pense aux passants, je pense aux animaux, aux pigeons, etc. Vous savez, on raconte toujours ces blagues où les véhicules autonomes sont à l'arrêt parce qu'il y a un pigeon qui a
traversé.
Bon, il faut qu'il apprenne la différence entre un pigeon et un piéton. On a donc toutes ces fonctionnalités, donc ça permet vraiment de rentrer dans le sujet et de comprendre à travers un exemple très concret, hein, puisque c'est une voiture tout simplement. Alors aujourd'hui, on en a très peu en Europe, il y en a un peu plus aux États-Unis puisque la législation est un peu plus permissive par rapport à ces véhicules qui n'ont pas encore été complètement tous testés, et donc on enregistre aux États-Unis régulièrement des accidents hein, qui sont produits par ces véhicules pour des raisons parfois complètement farfelues, mais ça c'est un des problèmes qu'on appelle les hallucinations de l'intelligence artificielle.
Ouais.
Hein, parfois, voilà, ça fait des choses un petit peu bizarres. En Europe, on a moins donc, de permis qui sont accordés. À Toulouse, on a quand même une expérience très intéressante qui est celle de la navette autonome que vous avez à Loncopole, par exemple,
oui. Hein,
puisque les véhicules autonomes dans un site propre, comme on dit, alors c'est pas parce qu'il est nettoyé tous les jours, c'est qu'il est protégé et donc il n'y a pas d'autres véhicules qui circulent sur la voie. Vous avez cette navette autonome hein, à Loncopole qui fonctionne très bien. Il n'y a pas de chauffeur. Elle est complètement sécurisée. Elle fonctionne voilà, à nouveau très bien. Et ça, c'est un bon exemple d'utilisation de véhicules autonomes dans un site en particulier qui ne va pas gêner les autres automobilistes et qui va fonctionner, rendre des services à la population.
Autre module, il y a 0.1, ça concerne les datas.
Voilà.
On ne va pas rentrer dans le détail.
Oui.
Il y en a qui c'est plus parlant, je pense, pour les gens.
Oui.
Rêve, réalité.
Oui.
Ça veut dire où en est-on aujourd'hui, jusqu'où ira-t-on? Quels sont peut-être aussi les fantasmes autour de l'IA?
Oui, oui, complètement. Bah, vous savez, c'est dans le rapport de Cédric Villani qu'il avait fait pour le gouvernement là, il y a quelques années sur l'intelligence artificielle, qui a été le rapport qui a créé justement tous ces instituts en France, les quatre instituts dont je parlais tout à l'heure, dont Aniti à Toulouse. Il avait cette phrase assez forte en introduction où il disait que l'intelligence artificielle, plus que tous les autres domaines scientifiques, était vraiment nourrie de l'imaginaire des chercheurs, l'imaginaire collectif, l'imaginaire de la société et tous les mythes de création de créatures artificielles, de reproduire nos fonctions cognitives, cérébrale, etc. Et donc, on a voulu aussi s'intéresser à ce domaine. Et là, vous avez... Alors, c'est une sorte d'installation artistique, on peut le dire comme ça. C'est-à-dire que c'est assez abstrait, puisqu'on n'a pas voulu être trop documentaire, puisque l'imaginaire, il s'appuie sur beaucoup de choses aussi abstraites. Et donc, on raconte, à travers trois petits modules audio, on raconte, en fait, cette histoire, à la fois depuis l'Antiquité. Hein, on a parlé de Prométhée, on peut parler d'Héphaïstos et les serveuses d'or, hein, ou voilà, ce dieu de l'Antiquité qui crée des robots, en fait, déjà à l'époque. Alors, on parlait pas d'intelligence artificielle, mais en fait on a déjà tous les ingrédients de ce qu'on va essayer de réaliser plus tard, et puis surtout Frankenstein, la créature de Frankenstein avec la science là qui prend le devant pour la première fois et qui réussit à créer des êtres, et c'est tout cet imaginaire qu'on va retrouver y compris dans les produits vendus par Google aujourd'hui à travers Android par exemple, qui rend hommage à des romans de Philip K. Dick, là, les androïdes rêvent-ils, le mouton électrique, le Blade Runner que tout le monde connaît.
Oui.
Voilà, on fait ce lien entre la science et l'imaginaire.
Donc, il y a un module, c'est pire mieux, ça je pense que tout le monde comprend. Donc, c'est les impacts de l'IA à toutes les applications, les domaines dans lesquels bah, elle va s'infiltrer de plus en plus. Est-ce qu'il est abordé, par exemple, la question de la disparition de certaines professions et des inquiétudes concernant des métiers, notamment les métiers de la création
Absolument. Oui, complètement. Les pire mieux, c'est les questionnements autour de l'environnement, l'impact environnemental de l'IA et l'impact dans le monde du travail. Et effectivement, dans le monde du travail, alors, vous pourrez vous-même vous tester, puisqu'on a un petit jeu, c'est êtes-vous remplaçable? Donc, vous allez pouvoir découvrir en fait comment, dans quelles conditions vous pouvez être remplaçable. Et l'enjeu, il est évidemment pas de dire tout le monde va être remplaçable, parce que ça, j'y crois pas beaucoup. Mais par contre, l'idée, c'est que certaines tâches que vous réalisez vont pouvoir être remplacées ou, disons, effectuées de manière peut-être plus efficace ou plus rapide par des machines. Et donc là, on a pris pas mal d'exemples, justement, avec le sociologue Ian Ferguson. Vous allez pouvoir écouter des témoignages de personnages. Alors, ils sont fictifs, mais ils correspondent en fait à des sortes de sociotypes de rapports, de relations entre l'IA et le travail. Et donc, certains vont vous raconter comment ils utilisent la machine dans leur travail et comment parfois ils peuvent la craindre également.
Et puis d'ailleurs, le dernier module, c'est humain-machine. Oui. Comment peut-on dialoguer avec l'IA ?
Voilà, et dans ce dernier module, on a invité aussi une artiste, Justine Aymar, à présenter une grande vidéo de recherche qu'elle avait faite dans un labo au Japon il y a quelques années entre un chorégraphe, un danseur et un robot. Et donc, c'est assez troublant de voir cette communication, mais au-delà de la communication, aussi cette danse entre l'homme et la machine, où on met en scène, en fait, cette capacité qu'on a, nous tous, hein, les humains sur cette planète, de pouvoir tout de suite investir, avoir une empathie pour quelque chose qui bouge, n'importe quoi qui bouge, on va déjà considérer que ça peut être vivant parce que ça bouge tout seul. Et donc, quelque chose qui bouge tout seul, qui ressemble à l'humain, qui réagit, qui semble réagir à l'humain, on est de plus en plus convaincu que c'est vivant et que c'est quelque chose à notre égal. Et c'est là encore l'enjeu de l'esprit critique, c'est là encore l'idée de se dire, attention, ce n'est qu'une machine. La machine, elle est programmée pour réagir de cette façon, pour interagir avec nous, mais la machine, elle ne comprend rien à ce qu'elle fait, elle ne ressent rien, et même si le visage du robot sourit, en fait, il ne ressent absolument rien.
Une chose importante qu'il faut que les gens sachent, c'est qu'ils vont pouvoir écouter les points de vue de 5 experts durant cette exposition, alors à travers des vidéos, ils ne sont pas présents, évidemment. Qui sont ces experts et comment interviennent-ils ? Alors, vous leur avez posé 3 questions, les mêmes à chacun.
Oui, c'est ça, on leur a posé 3 questions. On a Cédric Villani, j'en parlais tout à l'heure. Donc,
inutile de le présenter.
Voilà, grand mathématicien français. Donc, on a posé 3 questions. La première, c'est comment contrôler ? Qui peut contrôler ? Comment on contrôle l'intelligence artificielle ? La seconde question, c'est est-ce que l'intelligence artificielle peut faire preuve de création ? Est-ce qu'une IA peut être créative ? Et puis, la troisième, c'est la question d'Alan Turing. Une machine peut-elle penser ? Donc, c'est la question qui s'était posée lui-même dans les années 50, un grand chercheur, grand scientifique anglais.
À qui nous devons les ordinateurs.
Exactement. Donc, on a posé ces 3 questions. Donc, on a Cédric Villani, on a Laurence de Villers. Laurence de Villers, elle est professeure à l'université à Paris, chercheur en informatique. Elle viendra mardi faire une conférence au Quai des Savoirs sur IA et éducation. Donc, elle a une très grande réflexion. Elle est membre du Comité national d'éthique des sciences du numérique également. On a demandé aussi à Yann Ferguson, le sociologue dont je parlais, Thierry Ménissier, notre philosophe dans le comité scientifique. Et puis, aussi Marie-Laure Denis, qui est la présidente de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, pour laquelle je milite systématiquement, puisque c'est un établissement public qui aide et qui protège les citoyens par rapport au monde de l'informatique et de l'intelligence artificielle.
L'exposition est donc installée jusqu'au 3 novembre prochain au Quai des Savoirs. Est-ce qu'il va y avoir d'autres rendez-vous, d'autres temps forts qui vont s'inscrire autour du sujet de l'IA durant cette période ?
Oui, beaucoup une programmation assez importante. Alors évidemment, pour les scolaires, pour des activités, pour les scolaires à partir du cycle 3, c'est-à-dire à partir du CM1, CM2. On aura également des conférences. Je parlais de Laurence de Villers. On a des grands rendez-vous toute l'année aussi à travers un partenariat assez génial avec la Cinémathèque de Toulouse, mais aussi avec le American Cosmographe, le festival Greenhouse et même le festival Fifigro à la rentrée, puisque IA et cinéma, c'est un très grand sujet.
Oui.
Je parlais d'imaginaire. Donc voilà, on va projeter régulièrement, la Cinémathèque projette des films qui mettent en scène l'IA.
Question très pratique, à partir de quel âge on peut amener les enfants à cette exposition ?
C'est une exposition qui s'adresse aux enfants, on va dire, à partir de 8-10 ans, puisque l'intelligence artificielle, voilà, c'est pas un sujet pour les bébés, mais par contre, on pense que les enfants sont déjà sensibilisés à travers plein d'applications, même des jouets, tout simplement, puisqu'il y a beaucoup de jouets qui aujourd'hui s'adaptent de plus en plus aux enfants, et donc il y a une accessibilité qui est prévue. On a aussi, vous savez, nos médiateurs, comme on dit, face publique, c'est-à-dire qu'on a plein d'humains, nous, au Quai des Savoirs, qui sont dans la salle d'exposition.
Dieu merci, ils ne sont pas encore complètement remplacés, même au Quai des Savoirs.
Et on ne les remplacera pas. Et donc, on y tient beaucoup à nos médiateurs, médiatrices, qui sont des étudiants, des jeunes, qui sont sur le terrain et qui viennent parler avec le public, animer des séances pour les scolaires.
Les guider,
voilà, exactement.
Les rassurer peut-être parfois.
Exactement, voilà, qui viennent discuter, qui viennent faire des propositions aussi d'animation, d'activité.
Une dernière question très rapidement, comment vous espérez que les visiteurs vont ressortir de l'exposition, surtout ceux qui vont y aller en sachant peu de choses sur l'IA et en s'inquiétant peut-être beaucoup des conséquences qu'elle peut avoir sur leur vie ? Est-ce que vous voulez avant tout tordre le cou à certains fantasmes tout en masquant pas les inquiétudes légitimes générées par le développement de l'IA et son éventuel hubris, c'est-à-dire la démesure de son développement?
En fait, ce qu'on souhaite, c'est aussi faire passer un bon moment, on va dire, à nos visiteurs.
Oui, parce que donc, c'est ludique, avant
c'est
tout.
C'est ça, alors c'est ludique. Et puis, l'expo, elle est un peu conçue comme une immense œuvre d'art, on va dire. C'est la scénographe qui parle, avec un décor qui est assez perturbant, on va dire, mais au bon sens du terme, qui va vous immerger dans quelque chose d'assez original. Et donc, ce moment aussi de visite, on espère qu'il soit bon, qu'il soit collectif. Donc ça, c'est un point important. Après, bien sûr, l'idée, c'est de renforcer l'esprit critique, donc de démystifier, donc de se battre contre les préjugés sans masquer, comme vous l'avez dit, la réalité, parce qu'elle est présente, notamment en matière d'environnement. On rappelle un certain nombre de chiffres, mais on voit aussi, par exemple, et je tiens à les remercier aussi, l'Oncopole à Toulouse, qui nous a aidés pour développer un interactif sur la santé, et l'intelligence artificielle à travers la cancérologie. Et on voit aussi à quel point l'intelligence artificielle peut être utile, hein, très clairement,
à l'humanité. Il y a beaucoup d'espoir autour, évidemment, de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Mmh. Bien, merci beaucoup, Laurent Chicoineau, de nous avoir présenté l'exposition IA Double Jeu à découvrir au Quai des Savoirs du 2 février au 3 novembre. Toutes les questions que pose l'intelligence artificielle y sont abordées sans tabou. Elles sont toutes passionnantes, vous avez pu le voir. Pour préparer votre visite, vous pouvez consulter le site www.quaidessavoirs.toulouse-métropole.fr. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Je vous souhaite à tous un très bon week-end.
Métropole et vous. Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.